Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie.
Bonjour Rita.
Sur les ondes de Radio Larzac International,
rêverie brésilienne.
Devaneios brasileiros. Nous sommes aujourd'hui à notre 32e émission et à la deuxième émission de la saison 2014-2015. Comme je l'ai annoncé il y a 15 jours, Rêverie brésilienne sera consacrée, une fois par mois, à retracer l'histoire de la musique classique brésilienne. Et pour initier cette aventure qui se présage délicate et non moins savoureuse, je nous propose une réflexion sur ce qu'est la musique dite classique, ou érudite, ou encore académique. Les définitions des dictionnaires se ressemblent à quelques mots ou virgules près. Musique classique.
Le mot classique vient du latin classicus,
qui veut dire
de première classe.
Au XVIe siècle, ce mot est associé à l'enseignement dans les classes et au XVIIIe siècle s'étend à
ce qui appartient à l'antiquité gréco-latine, considérée comme la base de l'éducation et de la civilisation.
Les dictionnaires Larousse précisent
relatif à l'antiquité gréco-latine.
Tels qu'ils l'ont comprise et imitée, nombre d'écrivains et d'artistes à partir de la Renaissance, 15e et 16e siècle. En plus de situer le classicisme à une période précise, Dictionnaires et historiens ajoutent un sens précis qui est conforme aux usages, qui ne s'écarte pas des règles établies de la mesure. Le mot érudit, repris au XVIIIe siècle, a ses origines dans les vocables latins eruditus, des érudire qui veut dire
dégrossir,
et est utilisé tout comme cultivé, instruit, lettré, savant. Remarquons que eruditio en latin signifiait enseignement, instruction, savoir, et qu'au XVIIe siècle, érudition veut dire
savoir approfondi, fondé sur l'étude des sources historiques, des documents, des textes.
N'y confondons surtout pas érudit avec pédant,
celui qui fait étalage de son érudition.
Cherchons les différentes utilisations modernes du terme érudit dans des sites internet brésiliens. J'ai trouvé ceci que je considère très sympathique et dénué de snobisme. Erudito é algo ou alguém que possui uma cultura vasta sobre um determinado assunto. Erudito é relacionado a qualquer coisa que seja bem elaborada, estudada, cuidada.
Érudit est une chose ou quelqu'un qui possède une vaste culture sur un sujet déterminé. Érudit se réfère à toute chose qui soit bien élaborée, étudiée, soignée.
Erudito é também aquela pessoa que tem vontade de aprender sempre, que está sempre estudando, procurando se aprofundar em assuntos cultos, sobre a história do mundo, das artes, da música, etc.
Érudit est aussi une personne qui a la volonté d'apprendre toujours, qui étudie constamment, qui cherche à approfondir ses connaissances sur l'histoire du monde, des arts, de la musique, etc.
Et le texte finit ainsi. En anglais, la traduction de erudito est erudite ou erudite, à vérifier, ou scholar. Exemple. Everybody was surprised when he started his speech because nobody knew he was a scholar in that matter.
En anglais, la traduction d'érudit est erudite, I don't know the pronunciation, ou scolaire. Exemple, tous furent étonnés lorsqu'il commença son discours car personne ne savait qu'il était un érudit dans ces sujets.
Cette approche du terme érudit me plaît beaucoup, car elle ouvre le concept et rend plus démocratique les sens d'érudiction.
Amen.
quant à académique, l'origine se reporte au latin academia avec un C et academia en grec avec un K, signifiant société des gens de lettres, savants, artistes. Le terme académie s'y réfère non seulement au lieu, mais surtout à l'art produit dans ce lieu. Depuis la création de l'Académie de dessin de Florence en 1562, ces établissements proliférèrent en Europe durant le XVIIIe siècle, prônant une formation artistique basée sur l'obédience des règles strictes et sur un enseignement pratique et théorique et l'articulation des sciences et des disciplines telles la philosophie et l'histoire. Le caractère rigide et élitiste des académies fut largement ridiculisé par les compositeurs de musique populaire brésilienne dans les années 1930 à 1960, surtout par des moqueries associées à l'Académie brésilienne de lettres, sœur jumelle de l'Académie française de lettres, qui a refusé à différentes reprises la candidature des paroliers des chansons à grand succès. Justement, la polémique se crée lorsque les définitions et précisions s'établissent par opposition.
Musique classique en opposition à
musique légère, musique populaire, musique folklorique et dernièrement à variété, jazz et j'en passe. Justement, l'élitisme s'installe lorsque musique classique, érudite, devient synonyme de musique savante, en opposition à une musique non savante, d'origine populaire. Je vous incite à consulter la conférence proférée par Guillaume Cosmiki à la Cité de la musique dans le cadre des leçons magistrales le 28 novembre 2006 sur le site internet guillaumecosmiki.org. Je me permets de le citer. Dans notre société contemporaine, globale et globalisante, les frontières entre les genres musicaux et les différents types de publics, si elles subsistent, sont assez mouvantes. Mon hypothèse est que les catégories de musique savante et musique populaire ont aujourd'hui vécu et qu'elles sont amenées dans un futur proche à être remplacées par un classement beaucoup plus fonctionnel des musiques. Ces fonctionnalités sont déjà connues. Des musiques à fort potentiel physique, destinées notamment à la danse, des musiques destinées à l'écoute pure attentive, des musiques destinées à la scène, des musiques de détente, des musiques à caractère spirituel, etc. Ces classements seraient à même de rendre compte de catégories beaucoup plus proches à la réalité.
Thank you.
elle dit « Maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise pour effectuer ces voyages à travers l'histoire de la musique savante, classique, érudite, académique brésilienne. Ouvrons les portails, abattons les frontières et mettons-nous à l'écoute, c'est le cas de le dire. » De tous ces compositeurs reconnus classiques qui sautèrent joyeusement ces barrières. octobre 1492, Christophe Colomb découvrait l'Amérique. C'est ainsi qu'en France, au Brésil et presque partout nous apprîmes à l'école l'histoire de l'Amérique. Et c'est toujours ainsi que nos bambins sont introduits dans l'histoire du Nouveau Monde? Je ne sais pas. Marie, toi qui entre moi et les bambins, qu'as-tu appris sur la découverte de l'Amérique?
Que c'était bien Christophe Colomb en 1492.
Ah, voilà. Ce que je sais, c'est que la polémique a monté, monte et montera toujours autour de cette fameuse expédition. D'aucuns préfèrent utiliser les termes « inventés » dans les sens « inventoriés ». La formule se présente donc de la façon suivante. En 1492, Christophe Colomb inventait l'Amérique et en 1500, Pedro Álvares Cabral inventait le Brésil. Chic, n'est-ce pas? J'opte pour cette formulation. Vrai ou faux? Nous devons passer par cette descente en terre nouvelle pour pouvoir commencer à construire notre chronique socio-historique de la musique classique, académique, brésilienne. Pilote, en route! Députant de temps au repos, notre navette spéciale risque de s'y rouiller. Nous sommes le 12 octobre 1492, sur l'île de Guanahani, actuelle San Salvador, Caraïbes. Christophe Colomb débarque avec une centaine de personnes, l'équipage de son expédition. L'enjeu fut tellement important qu'à peine 2 ans après son arrivée en terre nouvelle, les rois de Castille et du Portugal se réunirent à Tordesillas, en Espagne, et mirent au point un traité qui diviserait l'océan Atlantique avec une ligne imaginaire tirée de pôle à pôle, 370 lieues, soit 1443 kilomètres à l'ouest des îles du Cap-Vert. Le traité de Tordesillas s'avéra un traité osé et innovateur, car il établissait une frontière divisant la mer autant que la terre, en supposant en plus une nouvelle conception de division des terres nouvellement découvertes ou à découvrir. Les terres à l'ouest de cette ligne imaginaire appartiendrait à l'Espagne, alors que les terres situées à l'est de cette ligne appartiendraient au Portugal. Esteban Valdivia, que nous écoutons ici avec Pierre Hamon, mène un travail de recherche sur les instruments de musique et les musiques pré-espagnoles. Intéressant de remarquer l'usage de l'expression pré-espagnole et non pré-colombienne. Supposons que plusieurs instruments soient musicaux, dit-il, tout en montrant les pièces en céramique qu'il étudie par radioarchéomusicologia, radiographie des instruments trouvés par des recherches archéologiques. C'est une des discussions avec les archéologues, poursuivit-il. Dans la conception classique, si l'instrument n'a pas une échelle de 7 notes ni une esthétique musicale occidentale, il n'est pas facilement accepté comme tel. C'est pourquoi nous appelons notre investigation des sons d'Amérique. Nous investiguons les sons car nous ne savons pas quelle musique ils faisaient et pour quel usage. Nous recréons une combinaison des sons préhispaniques, mais nous ne pouvons pas dire qu'ils sont des musiques préhispaniques. Nous entrons à nouveau dans la question de définition. Il s'agit ici de définir la musique. Ce sont des définitions conceptuelles, ajoute Esteban Valdivia. Et discuter sur ce sujet retarde trop l'investigation. Nous préférons éviter des problèmes épistémologiques. Il rejoint ici Sidney Moline, qui dans son article Teremos de peregrinar pela estrada dos preconceitos.
Nous devons faire des pèlerinages sur les routes des préjugés.
Sur le site cmozart.com.br, Conservatorio Mozart, responsabilise les préjugés évidents dans l'opposition musique érudite et musique populaire qui ne permettent pas de pénétrer dans l'essence de la musique érudite. Je tiens à lire la définition de musique du dictionnaire, tout en signalant que plusieurs dictionnaires que j'ai consultés, y compris un portugais, à part quelques virgules et quelques termes différents, formulent la même définition.
Musique, du latin musica et du grec musicae.
C'est l'art des muses.
Du latin musa et du grec musa.
Chacune des 9 déesses qui, dans la mythologie antique, présidaient aux arts libéraux. Par extension, muse est devenue l'inspiration poétique, souvent évoquée sous les traits d'une femme. Dès l'art des muses, musique est devenue l'art de combiner des sons d'après des règles, variables selon les lieux et les époques. Et qui peut affirmer que ces sons dont parle Esteban Valdivia n'obéissaient pas à des règles de continuité? De suite.
Song.
Nous sommes le 21 avril 1500. Les règles sont bien établies par le traité de Tordesillas. Pedro Álvares Cabral, chef d'escadre portugais, accoste avec son équipage sur des terres qu'il dénommerait Terra de Veracruz.
Terre de la vraie croix.
Pas de doute. Ces terres appartiennent au royaume du Portugal. Dans Rêverie brésilienne numéro 2, vous pouviez écouter ce récit de Pero Vaz de Caminha, rapporteur de l'expédition au roi de Portugal, parlant des habitants de ces terres. De l'autre côté du fleuve, beaucoup d'eux dansaient et s'amusaient les uns devant les autres, sans se donner les mains. Ils les faisaient si bien. Alors, Diogo Dias, magasinier, homme gracieux et qui aime s'amuser, a traversé de l'autre côté du fleuve amenant avec lui un musicien avec sa cornemuse et s'est mis avec eux à danser, prenant-les par leurs mains et eux s'amusaient et riaient et allaient très bien avec lui au son de la cornemuse. Il ne s'agit pas encore de parler de musique, il s'agit de parler d'un mode de communication. Dans les sites internet Brasil Escola, nous lisons Antes dos portugueses alcançarem terras brasileiras, nosso território era ocupado por uma infinidade de povos que rompiam as compreensões do mundo do homem europeu. De forma equivocada, ao chegarem aqui, os portugueses acreditavam que os índios formavam uma cultura comum, portadora de pequenas variações de comportamento e costume.
Avant l'arrivée des Portugais en terre brésilienne, notre territoire était occupé par une infinité de peuples.
Infinité est tout de même un peu exagérée.
De peuples qui rompaient la compréhension du monde de l'homme européen. D'une façon équivoque, les Portugais, en arrivant au Brésil, crurent que les Indiens formaient une culture commune, portant des petites variations de comportement et d'habitudes.
Les tribus Tupis, Guaranis étaient les plus nombreuses sur les territoires sud-américains, non seulement sur les territoires conquis alors par les Portugais, mais aussi sur les territoires attribués aux Espagnols par les traités de Tordesillas. On sait peu de la musique de cette période dite pré-cabralienne, la période avant Cabral. Cabral. Pour étudier ces Brésils pré-cabraliens, les chercheurs se penchent sur les langues natives parlées actuellement par les peu d'Indiens restant au Brésil et se penchent sur leurs apparentés historiques et leurs migrations. Les Portugais, et notamment les Jésuites, incorporèrent et se servirent rapidement du répertoire de musique et de danse des peuples qu'ils rencontrèrent, pour inculquer chez les Indiens les croyances et valeurs catholiques et européennes. Mais contrairement aux multiples traces que laissèrent les Jésuites espagnols dans les missions espagnoles, au Brésil, peu resta, presque rien. Comment déchiffrer cette énigme? Ceci est une autre histoire. Si vous nous écoutez les mardis 18 novembre, vous connaîtrez la suite.
Morena, morena, y don Gonzalo.
Notre émission d'aujourd'hui fut colorée par le fond musical dans l'ordre suivant.
Musique numéro 1, les très riches heures du Moyen-Âge.
À l'aube de la Renaissance, 15e siècle, volume 6, plage 14 à 17, Requiem extrait de Johannes Ockenghem par l'ensemble Organum, direction Marcel Pérez.
Musique numéro 2, les très riches heures du Moyen-Âge.
À l'aube de la Renaissance, 15e siècle, volume 6, plage numéro 1, Ligia Dradona, pour Vielle, de Joanna Sicogna, 1335-1414, par The Newbery Consort, Mary Springfield, direction l'Angleterre du 15e siècle.
Musique numéro 3, Dando la Nota.
Esteban Valdivia et Pierre Hamon. Je vous incite d'ailleurs à chercher les sites internet où Esteban Valdivia et Pierre Hamon font des démonstrations des instruments qu'ils jouent. Les visualiser ajoute une grande curiosité à notre essai de compréhension de ces manifestations sonores et musicales.
Musique numéro 4.
Pasos Perdidos, Esteban Valdivia et Pierre Hamon.
Musique numéro 5.
Pero de Escobar, compositeur portugais, né en 1465, décédé en 1535. Sanctus, interprète, ensemble Gilles Benchois, Dominique Villard.
Musique numéro 6.
Música portuguesa del siglo XVI, interprétation groupe circa 1500. Contraténor Gérard Lesne. 1. La Folia. 2. Machado. 2 Estrelas le siguen. 3. Já não podeis ser contentes. Pour les définitions françaises de musique classique, érudite, académique, nous avons utilisé les dictionnaires Robert et Larousse, en plus des textes dont nous avons énoncé les auteurs au fur et à mesure de leur lecture. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission précédente, le 7 octobre dernier, je vous rappelle que cette saison 2014-2015, Rêverie brésilienne passe d'hebdomadaire à bimensuel. Nous nous retrouverons deux fois par mois au lieu de quatre. Une des émissions sera consacrée à l'histoire de la musique académique brésilienne, alors que l'autre poursuivra son cheminement dans les méandres de la musique populaire brésilienne.
Alors, ne manquez pas Rêverie brésilienne dans 15 jours, le 4 novembre à 19h. Et retrouvez
Marie ou Nico
et toujours Rita.
Vous pouvez écouter
toutes les émissions précédentes
entrant dans les sites de Radio Larzac, ensuite dans Son, ensuite dans Émissions et Rêverie brésilienne rien que pour vous. Pra mim, Brasil. Merci à Marie, la magicienne de la technique d'aujourd'hui.